Le journal des sports avec vous Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Et pour commencer, un dimanche pas très glorieux pour le rugby français en Coupe d'Europe.
Oui, hier les trois clubs tricolores l'avaient emporté, Toulouse, Montpellier, le Racing 92. Et bien aujourd'hui c'est un flop, Lyon, Castres et Toulon ont perdu, les Toulonnais qui sont décidément mal en point. Ils ont été défaits sur leur pelouse par les Anglais de Newcastle pour un petit point, 26-25. Dominique Poulain, vous étiez au stade Mayol pour France Inter.
En pleine reconstruction et empêtré en top 14, Toulon ne semble pas encore taillé pour rivaliser avec le top 10 européen. Le RCT s'incline à domicile 25-26 face à Newcastle, le dernier du championnat anglais. On pensait pourtant que les Toulonnais avaient fait le plus difficile en menant 10-0 après 7 minutes de jeu. La suite montre un RCT toujours fragile, dominé physiquement, en difficulté pour mettre la main sur le ballon et défaillant en touche. Les Toulonnais font les frais du réalisme anglais. Toulon encaisse un 13-0 en 20 minutes. À la mi-temps, le RCT est tout heureux de n'être mené que d'un point, 15-16. En seconde période, les Falcons de Newcastle continuent de se montrer dangereux. Les Toulonnais, eux, restent indisciplinés et pas assez réalistes pour concrétiser leurs actions. Toulon, qui espérait que cette Coupe d'Europe apporterait une bouffée d'oxygène, est plus que jamais dans le doute. Toulon, Dominique Poulain, France Inter.
Des buts ratés pour Lyon également. Le Loup disputait le premier match de Coupe d'Europe de son histoire. Il a été battu par Cardiff 30-21. Une défaite qui hypothèque déjà les chances des Lyonnais dans cette compétition. Les Castréeux se sont inclinés sur la pelouse de Gloucester 19-14. Les champions de France doivent se contenter d'un point de bonus défensif. Un moindre mal, estime leur manager Christophe Furios.
On a fait un match solide, mais il y a trop d'erreurs à des moments importants du match qui nous permettent pas de mieux nous installer dans le match. Même si à la fin on a la balle de match, hein, et on doit marquer. Voilà, on n'a pas su bien s'installer dans le match, quoi. Si on avait le bonheur de gagner ce match, et ça nous mettait vraiment en bonne position, donc avant de recevoir, etc. Mais là on a pris un point. Donc, écoute, on est encore dans la course. Je trouve que c'est notre meilleur match, enfin c'est le match le plus solide qu'on ait fait à l'extérieur depuis que je suis à Castres en Champions Cup, donc je vois aussi des points positifs quand même. C'est une belle équipe, quoi. Je suis déçu, je suis déçu parce que je pense qu'on pouvait gagner le match. Ouais, je pense qu'on pouvait gagner le match. À la fin, on pouvait gagner le match.
Et des regrets hein, dans la voix de Christophe Furios en ce dimanche pluvieux donc pour le rugby français.
Du foot avec les Bleus qui retrouveront demain soir le Stade de France dans 48 heures plutôt pour un match de la Ligue des Nations, c'est mardi.
Voilà, exactement. Après un détour par la Bretagne et ce match nul à Guingamp face à l'Islande, les Bleus affronteront une pâle Allemagne après-demain. Les Allemands qui ont bien du mal à se remettre de leur fiasco lors du mondial russe. Ils ont été balayés hier soir aux Pays-Bas 3-0. Et pour ce match, eh bien, on n'aura pas le regard uniquement tourné vers Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. On suivra avec intérêt un autre joueur qui a fait plutôt bonne impression la semaine dernière contre l'Islande, le jeune milieu de terrain de Lyon, Tanguy Ndombele, 21 ans. Et que ce soit sur le terrain ou dans la vie à Clairefontaine, Sébastien Hazard, le bisu, s'est plutôt bien intégré.
Lui aussi, son entrée a été déterminante. Le milieu de terrain, Tanguy Ndombele, n'a pas loupé le coche pour cette grande première.
J'appréhendais un peu, ça s'est plutôt bien passé, tant mieux. J'espère que je pourrai reporter le maillot surtout.
Il y a des chances, plutôt inspiré. Sur le premier but tricolore, il récupère le ballon avant de le transmettre à Kylian Mbappé. Pas la seule action d'envergure, c'est simple, le joueur de l'Olympique Lyonnais pouvait difficilement faire mieux pour ses 25 premières minutes avec les champions du monde.
Je ressemble un peu à certains joueurs ici. J'ai déjà entendu, on m'a déjà comparé à N'Golo ou à Paul. Après moi je suis jeune donc j'ai une certaine insouciance je pense, j'ai moins de pression que les autres pour l'instant.
Didier Deschamps a apprécié les enchaînements, les passes vers l'avant, sa présence dans les duels, bref toutes les qualités demandées à un milieu de terrain. Et si Tanguy Ndombele est aujourd'hui une valeur sûre de la Ligue 1, il était encore totalement inconnu il y a un peu plus d'un an. En août 2017, il évoluait à Amiens, tout juste promu dans l'élite. L'équipe de France, ce n'était pas forcément imaginable pour lui il y a 3 ou 4 saisons.
Ouais, c'était vraiment impensable. Je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, je l'ai mérité. Une carrière, ça va vite dans les deux sens. Aujourd'hui, je suis arrivé vite, mais je peux partir aussi très vite.
Bon élève, Tanguy Ndombele assure être là pour apprendre et il a montré que depuis quelques temps, il apprenait bien plus vite.
Alors, la tête des Bleus, vous le savez, il y a Didier Deschamps, ancien joueur, champion du monde 98 et qui a commencé sa carrière d'entraîneur à Monaco. Ça vous rappelle quelqu'un, non?
Vous allez nous parler de Thierry Henry.
Eh oui, le nouvel entraîneur du club de la Principauté a exactement le même parcours pour l'instant que son capitaine lors du sacre de 98. Henry sera à l'entraînement demain pour sa première séance et l'actuel sélectionneur tricolore est confiant dans la réussite de son ancien partenaire.
S'il veut un avis, à la limite, je lui donnerai, mais Thierry est prêt. Il a tout fait pour attendre ce moment-là. Ça se présente là aujourd'hui. L'AS Monaco, il connaît, même si c'est plus l'AS Monaco quand il était joueur, bien évidemment. Mais il se lance dans un projet excitant, exaltant, où il aura la responsabilité. Là, il était dans un staff avec un sélectionneur Martinez. Là, ça sera à lui de mener la barque, comme on dit. Mais il est prêt, il est plein d'envie, plein d'enthousiasme. Donc, quand on passe de sa carrière de joueur à carrière d'entraîneur, c'est différent. Et là, même de son rôle d'adjoint à son rôle d'entraîneur numéro un, le rapport avec les joueurs n'est pas le même. Mais il est prêt, je lui souhaite beaucoup de courage et une bonne réussite.
Didier Deschamps ce matin sur le plateau de Téléfoot. Il a aussi rappelé que sa première saison à Monaco en 2001 avait été très très compliquée pour Thierry Henry. Le baptême du feu, ce sera ce week-end avec un match contre Strasbourg. Tiens, des nouvelles de Didier Drogba, l'ancien joueur très populaire du côté de Marseille notamment. L'Ivoirien a annoncé ce dimanche qu'il quittait son club de Phoenix en deuxième division d'Amérique du Nord. Son contrat est arrivé à son terme et à 40 ans, il pourrait donc prendre sa retraite. Le tennis maintenant, et revoilà Novak Djokovic au plus haut sommet après un trou d'air de plusieurs mois.
Et oui, le Serbe a remporté à la mi-journée le Masters 1000 de Shanghai en ne laissant aucune chance au jeune croate Borna Koric.
Victoire en 2-7, 6-3, 6-4, c'est sa quatrième victoire en Chine. Un succès qui confirme son retour au premier plan après avoir remporté cette année deux tournois du Grand Chelem, Wimbledon et l'US Open, deux Masters 1000, Cincinnati et donc Shanghai. Et demain, il sera le nouveau numéro 2 mondial devançant Roger Federer et il n'est plus qu'à quelques points de la première place de Rafael Nadal qui lui est toujours blessé un genou. Incroyable scénario quand on pense qu'au printemps dernier, Djoko était au fond du trou pour des raisons personnelles et sportives. Alors faut-il être vraiment surpris par cette résurrection? Bien, Fabrice Amgral a posé la question à Arnaud Clément, ancien numéro 1 français.
Oui et non, les 5 mois, il a mis beaucoup plus de temps à retrouver son meilleur niveau. Hein. Faut pas l'oublier, c'est une année quasiment entière pour lui. Et après, c'est vrai qu'à partir du moment où il a retrouvé son meilleur niveau, et ben, c'est vrai qu'il a été extrêmement dominateur. Après, il y a eu des combats magnifiques, hein, notamment je pense au combat contre Rafael Nadal à Wimbledon, c'était extrêmement équilibré, et deux joueurs au sommet de leur art, un match sublime, donc ça nous promet aussi de belles confrontations si Rafa récupère physiquement et si Djokovic garde son meilleur niveau, on risque d'avoir également un très très beau combat pour la place de numéro 1 l'année prochaine. Après, il peut y avoir aussi un ou deux jeunes joueurs qui viennent s'y mêler, et puis le vétéran Roger Federer, pourquoi pas de nouveau essayer de gagner un grand chelem à Wimbledon ou à l'US Open.
Et puis enfin, un titre cette année pour Caroline Garcia. La Française a remporté le tournoi de Tianjin en Chine. 7-6-6-3 face à la Tchèque Karolina Pliskova. C'est le sixième titre de la numéro 1 tricolore après une année décevante hein, où elle n'a atteint les huitièmes de finale dans un grand chelem qu'au début de l'année, et c'était en Australie. La Ligue des champions de handball, le Paris Saint-Germain, s'est imposée. C'était il y a quelques minutes chez les Danois de Skjern, 26 à 24, victoire importante dans le haut du tableau en ce moment. Nantes affronte Célier, c'est une équipe slovène. Et puis en Ligue des champions féminines, Metz ramène le nul 19 partout de Odense, toujours au Danemark.
En cyclisme, ce sera le fait marquant de cette fin de saison, le triomphe de Thibaut Pinot sur les routes de Lombardie.
Le Tour de Lombardie, l'un des 5 monuments du cyclisme mondial. La plus belle victoire pour le Français, 28 ans, lui qui sort d'une saison en dents de scie. Il avait été malade sur le Giro, il avait abandonné. Il finit fort cette saison avec notamment 2 victoires d'étape sur la Vuelta et donc cette victoire sur le Tour de Lombardie. Et ce renouveau, l'un de ses coéquipiers, Jérémy Roy, en a été le témoin. Roy, c'est plus qu'un coéquipier d'ailleurs pour Pinot, c'est son mentor, son confident. Roy connaît Pinot comme personne.
C'était pas une défaillance, c'était quand même une maladie. Il s'est battu jusqu'au bout. C'était même un peu risqué pour sa santé. Donc il a réussi à se ressourcer. Ça aurait pu être à double tranchant. Soit il tournait la page et il passait à autre chose. Voilà, mais il a su bien se reposer, se ressourcer, faire une petite introspection et repartir. Voilà, le couteau entre les dents et aller chercher maintenant les victoires comme il l'a fait. Donc c'est peut-être une je peux pas dire un mal pour un bien, parce que franchement, dans l'état où il était, j'ai pas envie de le revoir comme ça.
Jérémy Roy, qui a d'ailleurs mis un terme à sa carrière aujourd'hui. Il part donc sur 7 victoires de son ami, la plus belle des sorties assurément.
Mmh. Allez, pour terminer, elle a le nom d'un breuvage et elle fait tourner la tête de beaucoup de skippers dans le monde.
La route du Rhum départ dans 3 semaines tout juste de Saint-Malo et ce sera évidemment un événement pour tous ceux qui aiment l'aventure. 123 bateaux au départ, c'est un record. Ils tenteront de rejoindre la Guadeloupe et Pointe-à-Pitre et parmi eux, le tenant du titre, Loïc Perron, il détient aussi le record de la traversée en 7 jours et 15 heures. Eh bien, figurez-vous que Perron va reprendre la mer sur cette route du Rhum, mais sur un petit bateau, la copie exacte de celui de Mike Birch qui s'était imposé lors de la première édition il y a 40 ans. Alors Loïc Perron va perdre, c'est sûr, c'est une certitude, il ne va pas gagner, cette idée lui plaît assez bien.
Ça va être ma 52e traversée de l'Atlantique, je crois, je sais même plus. Et ma 8e route du Rhum, mais clairement, oui, ça risque d'être, je vais pas dire la plus tranquille, parce qu'il y a forcément des sollicitations, et puis on est là pour ça, et je suis là pour offrir justement cette histoire et la partager, et l'offrir particulièrement à Action Enfance, qui est une fondation dont je porte les couleurs. Oui, mais ça fait du bien, c'est ce que je cherchais. Ça fait quelques années que j'avais envie de revivre un petit peu mes premiers émois sur l'Atlantique, lesquels étaient franchement angoissés de temps en temps, À 19 ans, je traverse avec d'autres copains d'ailleurs, on est en solitaire, chacun sur notre petit bateau, c'est la mini Transat. Et là, à l'époque, le GPS n'existe pas, on est sous régulateur d'allure, on est un peu inconscient, mais c'était les seuls moyens disponibles à l'époque et tout allait bien. Avec le fameux sextant, là, celui qui permet au capitaine Haddock de se paumer dans la basilique Saint-Pierre de Rome, après de savants calculs, mais voilà, de réutiliser ce genre d'instrument suffisamment précis, mais toujours un petit peu avec un peu d'incertitude, ce qui nous manque en fait. C'est pas mal de temps en temps de rappeler quelques fondamentaux, de dire quand il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ce genre de petits détails qu'on en a un peu oublié aujourd'hui avec des moyens de communication. Donc en gros, la connexion est un luxe exceptionnel. Heureusement qu'il y a des moyens modernes de connexion pour avoir de l'information, la partager et partager avec ses proches. Mais je me permets ce luxe de me déconnecter.
Voilà, du Loïc Perron comme on l'aime à entendre. Et c'était donc le clin d'œil de France Inter à cette aventure qui est la route du Rhum. Le départ sera donné le 4 novembre.
Ça s'approche, voilà, France Inter qui aime Loïc Perron.